I swear I didn't want to hurt you. I wouldn't mean that harm. But I did. It's unfair, and no one is prepared to the disruption of a day.
D'Allegre FM.
Et oui, vous êtes bien sûr Jazzland d'Allegre FM 93.1. Il est sympa ce jingle, on a envie de le chanter d'ailleurs, on va y revenir. Eh bien écoutez, on est heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission où on a le plaisir. Alors c'est complètement un hasard du calendrier, la dernière fois qu'on les a. On les a reçus, c'était en même temps, tous les deux, pour parler de leurs albums. Et aujourd'hui, ils reviennent, et aussi ils reviennent en même temps. Alors, je ne sais pas s'ils vivent ensemble, s'ils ont fait un enfant ensemble, si Ils n'ont pas fait de musique ensemble, je crois pas, mais c'est un hasard du calendrier. En tout cas, on est ravis de les retrouver. Ce sont deux pianistes qui ont, outre le fait que visiblement ils ne se séparent jamais, un autre point commun, c'est que en fait, ils ont de la suite dans les idées, comme j'ai pu le mettre dans la page Facebook pour annoncer l'émission, puisque ils viennent nous présenter des albums qui sont des albums qui s'inscrivent vraiment dans la continuité de leurs albums précédents. Alors, en première partie de l'émission, celui dont vous venez d'entendre la douce et suave voix, et qui est aussi le créateur du jingle que vous entendez tous les samedis, je lui laissais dire son nom, il est pianiste et chanteur.
Bonjour, je m'appelle Alexandre Saada. Alors je tiens à préciser qu'on s'est consulté avec Sébastien pour venir ensemble, on fait exprès.
À chaque fois vous viendrez, à chaque fois vous sortez toujours, un album, toujours. Vous sortez vos albums en même temps.
Je ne veux pas venir seul.
Et donc tu as spoilé un peu l'invité de deuxième partie, mais je vais laisser dire son nom.
Bonjour, c'est Sébastien Panestre.
Eh bien messieurs, on est ravis, mais là maintenant il va falloir que vous fassiez un piano à quatre mains parce que ça devient indispensable.
Non, piano rose, c'est une idée.
Ah mais carrément.
Piano c'est rose, vient de mon studio. Pardon, excuse-nous.
Non, mais je vous en prie, allez-y. Allez-y, visiblement vous connaissez très bien. Donc on est ravis de vous recevoir. Alors on vient de démarrer l'émission avec, j'espère que d'ailleurs vous ne dormez pas, I Don't Sleep, une sortie de l'album, dans l'album Yellow Horses, qui est sorti il y a déjà quelques temps, ouais. Et on avait dit qu'on voudrait se réserver un moment pour en parler et lui redonner une vie après un superbe concert qu'on avait vu, un concert, comment dire, un release party, c'est un concert de sortie,
c'est ça,
c'est mieux de dire comme ça, au studio de l'Ermitage. Alexandre Saada, Yellow Horses, je disais que vous aviez de la suite dans les idées parce que il fait écho à Song for a Flying Man, c'est ça, cet album?
Oui, est-ce que c'est la suite, j'en sais rien, mais oui, c'est un album de chansons pop dans lequel je chante.
Oui, et c'est alors justement votre on vous a, en fait, Alexandre Saada, vous touchez à tout, c'est-à-dire que on vous a connu comme dans des albums piano solo d'improvisation presque classique d'ailleurs. On vous a connu dans un univers très très free. On vous connaît parce que vous êtes le Salomon de Madeleine et Salomon avec Clotilde Rulot qui tourne beaucoup. J'en oublie des meilleurs. Enfin, on va vous entendre bientôt avec une autre chanteuse, Malia, puisque vous êtes sur le prochain album de Malia. On aurait aimé en passer un morceau, mais ça sera pour une prochaine émission. Vous touchez à tout, mais on a l'impression que là, vous êtes découvert chanteur avec une voix absolument magnifique. Je ne sais pas, Sébastien, si vous connaissiez la voix d'Alexandre. C'est quoi le déclic d'avoir envie de chanter ?
Absolument magnifique, c'est beaucoup dire. Mais merci, en tout cas, c'est sympa.
Je le pense, parce que sinon vous ne seriez pas là, Alexandre.
Ah, c'est trop gentil.
Mais si.
Mais je crois que c'est avec Clotilde, justement, dans Madeleine et Salomon, qu'on a commencé à faire quelques chansons à deux voix. On a fait une chanson à deux voix, qui se chantait à deux voix, donc on l'a travaillé comme ça. Et en concert, en fait, j'ai pris plaisir à cet exercice.
Et c'est là où vous vous êtes dit, finalement, j'y vais.
Peut-être, ouais, c'est ça. J'ai pas souvenir d'un déclic particulier, mais en tout cas, j'ai pris plus de plaisir que ce que je pensais.
Et alors, du coup, il y a tout un travail parce que c'est quelque chose de faire effectivement un album en piano solo ou très très free avec une très très large formation, puis là se retrouver dans un contexte assez intime en fait. Vous allez nous parler quand même des musiciens qui vous accompagnent, mais c'est votre musique, c'est vos paroles. Donc ça raconte quelque chose de vous.
Ah oui, alors ça c'est vrai. Après je me planque derrière l'anglais quand même, mais c'est vrai que ça raconte beaucoup de choses personnelles. Mais dans la musique c'est ce qu'on fait, enfin je sais pas ce que t'en penses Sébastien, mais c'est ce qu'on fait un peu tout le temps. On raconte des trucs très intimes à travers les notes, ou peut-être qu'il y a des indices dans les titres ou dans les albums, je sais pas, les formations, peut-être quand on fait un solo. Absolument. C'est quelque chose d'assez...
Très intime, bien sûr. On essaie d'y mettre un peu d'âme, quoi.
Ouais, c'est
forcément
ça.
L'âme, c'est ce qu'il y a de plus intime en nous.
Ouais, c'est ça. Hein. Et c'est vrai que quand on met des mots sur les choses, alors c'est pas forcément une volonté... Enfin, en ce qui me concerne, moi j'ai pas une grande expérience de l'écriture, parce que j'ai juste écrit ces quelques chansons, mais disons que ce qui me vient spontanément, ce sont des choses... relativement onirique ou symbolique, je sais pas, comme une histoire que j'ai envie de raconter. Et après coup, quand je relis le truc, je me dis, ah oui, t'as quand même raconté des trucs de toi plus que ce que je pensais, en fait. C'est pas vraiment prémédité, mais oui. Contrairement, on m'a raconté un truc marrant sur Sergio Leone il y a pas longtemps, qui disait, il y a que les Kang qui parlent d'eux. Enfin là, j'ai fait l'accent du sud, mais en fait, il avait un accent italien, lui. mais pour dire que tout le monde ne parle pas de lui, de soi.
De soi.
Dans les chansons, parfois, on prend une histoire, comme les albums concept, on décide de raconter une histoire un peu extérieure. Je ne sais pas à quel moment ça se décide.
Qu'est-ce qui est le plus difficile dans ce travail ? Écrire de la musique, c'est votre quotidien. J'imagine que vous vivez avec ça, avec Fabien, comme Sébastien, vous écrivez de la musique tout le temps. Écrire des paroles, c'est une étape compliquée. Comment ça se passe pour vous qui êtes musicien ? Est-ce que quand vous écrivez des paroles... Qu'est-ce qui commence ? Qu'est-ce qui précède ? C'est écrire les paroles ou écrire la musique ? Et c'est quoi votre processus ?
Alors,
créatif.
Moi, j'écris énormément. J'écris pas tant que ça parce que c'est pas évident. Mais ça vient un peu quand j'improvise, qu'il y ait une idée qui vienne. Et souvent, il y a une phrase qui vient avec sa mélodie. En fait, une phrase qui vient dans une musique, dans une musicalité, et qui me donne envie de comme une idée qui vient avec un.
Avec un riff, avec un...
Ouais, c'est ça, une phrase qui vient comme ça, et je me dis, tiens, et puis si elle me reste quelques jours après, que j'essaie de l'oublier, qu'elle revient, je me dis, tiens, ça m'accroche, ça accroche quelque part, donc je vais essayer de creuser.
Et ça part en fait d'une idée musicale, en fait.
Un peu, entre les deux, hein, quelques mots, parfois les mots veulent rien dire, et j'essaie d'en faire une phrase qui a un sens, et je suis pas très rapide. Il y a juste une chanson dans cet album, là, qui s'appelle « No Trouble », qui est venu d'un coup, c'est-à-dire le temps de l'écrire. J'étais très surpris parce que c'est pas du tout mon...
On s'était pas concerté, quel magnifique sens de la transition, parce que c'est justement le morceau qu'on va écouter, mais on va enchaîner deux morceaux. La dernière fois que vous étiez venu, on avait prévenu les auditeurs qu'ils allaient s'endormir avec Madira Johnson, qui ne lâcherait pas, et ben maintenant ils vont s'endormir avec Molly, qui est un peu le pendant de Madira Johnson, mais qu'on va enchaîner avec No Trouble. On y va. Molly.
Hello Molly, should I find it funny how you left me on the curb? Don't you worry why I feel so shabby, crushed like a bumper or butt. Molly, don't be cruel, this breakup is too soon. I'll sing you a song to show you all my love. Molly Holly slut. Down the holy path of morning glory, my short appearance was discreet. Crawling, diving, desperately submitting, I try to entertain the world. Molly, don't be cruel, this breakup is too soon. I'll make you a cake to show you all my love. Molly, holy slut. No trouble. I
just need to feel you are next to my body is vain. My mind is frozen, just like the hundred stars all around us. I am missing you. Do you care? Trees are burning as we run away. They dance like there's no tomorrow. Children try to speak, but no one's listening to their voice. Like walls, they might say nothing, but we all do know what really happens. Are we sleeping here much too long? Did we forget that we were once as one?
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Et oui, vous êtes bien sûr Jazzland Aligre FM 93.1 en compagnie d'Alexandre Saada pour la sortie de l'album Yellow Horses, et puis accompagné de Sébastien Padestre aussi, qui nous parlera tout à l'heure de Border Jazz. Alexandre, est-ce qu'on peut assumer, on est sur Jazzland,
oui.
Assumons le fait que ce n'est pas un album de jazz.
Ah ouais, carrément.
On assume.
C'est un album de...
Parce qu'on peut essayer de trouver des...
Moi je l'assume tout à fait.
L'assume complètement. Ouais.
C'est pas un album de jazz, fait avec des jazzmen. Par contre, joué par des musiciens de jazz et dans un univers où les harmonies sont plus proches d'un morceau de jazz que d'un morceau de folk.
Ouais, mais je quand...
Mais c'est...
Néanmoins, quand j'entends certains morceaux, moi, vous allez nous dire qu'est-ce que vous écoutez, mais moi j'entends, je sais pas, on peut trouver des correspondances partout, mais j'entends du Robert Wyatt, j'entends du Leonard Cohen, j'entends même du Chet Baker dans la musicalité. Je sais pas si Sébastien, ou je déconne complètement.
J'ai pas tout écouté, donc je m'avancerai pas là-dessus, mais effectivement Robert Wyatt.
Mais je pensais à Chet Baker dans ce timbre de voix, dans cette douceur de voilà. Qu'est-ce que vous écoutez?
Il a une petite voix, Chet Baker.
Ouais,
il a un grand talent. Il pousse pas beaucoup, il se colle au micro, mais je fais un peu pareil.
Est-ce que justement, on dit c'est avec des musiciens de jazz, on va parler de l'équipe qui vous accompagne, mais est-ce que ça veut dire aussi que sur la base de ce matériau, des chansons, vous autorisez de l'improvisation, des plages d'improvisation?
Oui, il y a des morceaux improvisés, ouais, ça c'est sûr. Pas au niveau de la voix évidemment, mais musicalement, ouais.
Alors, qui sont vos camarades de jeu? Parce que je dois dire que vous allez nous en parler. J'ai eu la chance de vous entendre à la sortie de l'album au studio de l'Ermitage, une révélation de ces musiciens, et notamment du guitariste qui vous accompagne, mais aussi des autres. Vous pouvez nous dire qui vous accompagne?
Alors, le bassiste, c'est Thomas Pégorier, qui est un vieil ami, qui est aussi ingénieur du son, avec qui je travaille depuis quelques années.
Vous avez enregistré chez lui?
Ouais, exactement. D'ailleurs, il y a une chanson où on entend son chien aboyer pendant qu'il venait me sauter dessus pendant qu'on jouait. Je pouvais pas lâcher les deux mains parce que j'étais en train de jouer, évidemment. Et il aboie, je faisais des petites caresses, il aboie un moment, on l'entend.
Parce que vous arrivez à chanter, jouer du piano et caresser le chien en même temps.
Non, j'ai fait les voix et piano séparés pour des histoires
et
techniques.
Caressage et caressage de chien séparément.
Ouais, mais piano, caressage de chien, ça va, c'est fastoche. Et à la batterie, c'est Olivier Estin, avec qui je joue depuis une dizaine d'années à peu près. On a commencé sur son trio. Et Martial Bord à la guitare, qui est aussi un super musicien, qui vient de sortir son disque là, avec Olivier aussi à la batterie et Tom Codel au tuba.
Qui apporte une couleur incroyable sur certains morceaux, presque dark.
Il est profondément rocker, et presque rock punk et jazzman, improvisateur. Donc, mais il a ce côté rock très marqué qui fait qu'on peut vraiment amener. Enfin, c'est pour ça que j'aime bien jouer cette musique avec lui parce que dans les harmonies jazz, on se comprend tout à fait et on peut aller loin dans le rock progressif ou des trucs plus dark, effectivement, que moi j'adore, enfin, avec lesquels j'ai grandi. Quoi.
Oui, vous avez eu un passé un peu punk aussi, non ?
J'ai pas écouté beaucoup de punk, mais...
Mais ça fait partie de votre culture. Mais justement, on parlait des influences. Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment ?
En ce moment, je me suis remis à écouter Ruben Gonzalez, un pianiste cubain incroyable. Chet Baker, j'ai toujours écouté, évidemment. Et je sais pas, tout ce qui peut passer. Qu'est-ce que j'écoute en ce moment exactement ? L'album de Martial, j'ai écouté pas mal.
Oui.
Ouais. Beaucoup, mais ça c'est souvent.
Oui, ça c'est voilà, c'est le façon ça, c'est l'île déserte, c'est de chevet vous aussi, Sébastien.
Ouais, Prince, David Bowie, ça cela. Ouais.
C'est marrant, c'est la question qu'à chaque fois qu'on me pose, je pense au truc en fond et pas au truc que j'ai.
Alors, je vous demande pas votre île déserte, hein, je vous demande juste ce que vous écoutez en ce moment là, ce que vous écoutiez en venant là dans le métro.
Ah, rien.
Alors, on vous a entendu à l'Ermitage. Va y avoir d'autres concerts ?
Alors, pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Moi, je vais partir en Angleterre en solo, faire quelques concerts, parce que malheureusement, le disque est difficile à promouvoir. Tout coûte cher et les théâtres, les salles de concert vivent une période difficile en ce moment. Comme toute la culture en général.
C'est peu de le dire.
Ouais, c'est très compliqué. Donc, moi, je ne fais pas le forcing parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui sont en demande en ce moment, que c'est compliqué pour tout le monde. Donc, ça ne sert à rien de faire un embouteillage plus que ce qu'il y a déjà. Je vais partir en solo en Angleterre, à Édimbourg, Londres.
Vous reprenez le répertoire que vous aviez fait
Ce répertoire-là, dans quelques salles, des petits bars, des trucs...
Excellent, mais alors, on vous entend aussi avec Madeleine et Salomon, vous avez encore d'autres dates, parce que Madeleine ça, c'est pour Salomon, le coup, vous avez beaucoup, dates, ouais. beaucoup tourné avec Madeleine et Salomon. Ouais. Il le sait, Sébastien, parce qu'il essayait d'attraper Clotilde Rulo pour enregistrer...
Pour ses concerts
avec un Jean Quartet. Ah non, je peux pas, je suis avec Alex, ça, c'était difficile. Hein.
Moi, elle me disait tout le temps qu'elle était avec toi.
à un moment donné, d'ailleurs, ça a fait une surenchère, les cachets sont montés, je lui dis que ça suffit, Clotilde.
Sébastien et Alexandre régler leur scène de ménage et puis on se retrouve dans une heure. Voilà. Non, et puis alors vous avez un rapport effectivement, Alexandre, avec les chanteurs et les chanteuses, parce que on va bientôt vous entendre avec une magnifique chanteuse.
Oui, avec Malia, le disque est sorti là il y a un mois. On en est fiers.
Il est sorti ?
Oui, il est sorti fin janvier. Il n'y a même pas un mois.
D'accord.
Ouais. Et très très content, je suis hyper content de ce disque. C'est des reprises de chansons de musique de film. Donc il y a une chanson de Bodyguard, une chanson de Macadam Cowboy.
Mais avec effectivement une personnalité vocale de Malia qui est absolument...
Malia est géniale, j'adore cette...
Absolument incroyable. Puis en plus ça parle de musique de film, parce que vous-même vous avez fait des musiques de film.
Oui.
D'ailleurs, j'invite les auditrices et auditeurs d'ailleurs à aller voir sur votre site, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Et notamment, tout à l'heure, je vous posais la question de vos influences. Je me demandais, Leonard Cohen, comme ça, genre celui qui avait repéré les influences de Leonard Cohen, mais c'est simplement parce que vous le dites sur votre site.
Non, mais c'est vrai que c'est une personnalité qui m'a beaucoup marqué par... justement, tout n'est pas dans la voix. C'est pas un chanteur à voix, donc moi, comme je chante pas beaucoup... C'est peut-être ça m'arrange quelque part, mais au niveau des mélodies, là, cette période de la folk est une période qui me, comme Dylan aussi, c'est vraiment de la musique qui me plaît beaucoup.
Paraît
le film, je ne l'ai pas vu justement, mais il paraît qu'il est super.
Sébastien, non ?
Je vais aller le
voir. Non, mais j'ai envie d'aller le voir.
Ah, oui, je pense qu'il faut y aller. Oui, ouais. Absolument. Bah, en tout cas, si vous aimez chanter, c'est quand même un film où à la fin de la bande-annonce de fin, au générique de fin, tout le monde chante dans le cinéma. Enfin, ah, ouais. Tous les gens de notre âge, enfin de mon âge, chantent. Les jeunes un petit peu moins. Mais non, il faut absolument aller le voir. C'est un film absolument remarquable. Écoutez, on va guetter vos dates de concert parce qu'effectivement, je dois dire qu'on a vraiment adoré. On va essayer de pousser pour qu'il y ait des dates de concert pour Yellow Horses. Et puis, j'imagine que dans ce process, vous avez des textes que vous avez en attente d'une sorte de volume 3. Non, mais comme vous nous avez expliqué votre processus créatif, c'est pas tout à fait comme ça.
Ça vient quand ça vient. Ouais. C'est vrai que je pousse pas parce qu'à chaque fois que j'essaie de pousser, ça marche pas. Donc.
Ça vient quand ça vient, en tout cas, un grand merci. On va écouter. Qu'est-ce que j'ai prévu? To the Bay. C'est quoi? C'est quelle baie?
Aucune. C'est un peu imaginaire. Alors ça, c'est pas spécialement.
Moi, je pensais que c'était un endroit où vous alliez vous emmener la famille en vacances.
Il y a une plage où on va en famille, mais là, c'est pas vraiment autobiographique. Là, c'était plus un fantasme d'une histoire de couple qui capote complètement. Donc moi, tout va bien dans mon couple, donc je peux pas dire que c'est autobiographique, mais c'est une histoire de famille qui s'effondre et on essaie de se raccrocher à des vacances, à des souvenirs, à des trucs comme ça, qui refont le lien familial, mais ça marche pas toujours. Okay. Donc je sais pas, mais la mélodie de To The Bay est venue avec les mots, je me suis dit, qu'est-ce que tu vas raconter maintenant avec ça?
To The Bay.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Living from you is an option. I would consider more and more. Darling, please, love ain't an option. And the poetry you ignore. To the bay. Alas, we go to the bay, to the bay. At last we go to the bay, to the bay. At last we go to the bay, to the bay. At last we go. The maze of illusions running into is the very first of a sin. I was blind, stuck in devotion. Take me to the day it all begins. To the bay, to the bay. Alas, we go to the bay, to the bay. Alas, we go to the bay, to the bay. Alas, we go to the bay, to the bay. Alas, we go. We go.
sur Aligre FM avec Jean-Marc Gélin.
Et oui, comme elle a dit, la dame, Jazzland sur Aligre FM 93.1, on est d'entendre justement la voix de Clotilde Rulot sur un jingle de Alexandre Saada, et on en profite pour les remercier. Avant de passer à notre invité de deuxième partie, je voulais juste, ça m'arrive rarement, mais de faire bon, on a entendu Martial Bor à la guitare, je voulais faire un peu de pub pour un livre qui est sorti, vous connaissez Marc Ribot, voilà, Marc Ribot, superbe guitariste qu'on a entendu dans plein d'occasions, notamment avec John Zorn, entre autres, qui a sorti un livre aux éditions Linkaland qui s'appelle « Jusqu'à la corde ». Et ce livre, moi, c'était un coup de cœur, d'ailleurs, messieurs, je vous le laisse si vous voulez. C'est un coup de cœur, c'est pas un livre de musicien, les premières pages sont un peu musicales, d'ailleurs un peu chiant, je peux pas dire, mais le reste est absolument remarquable. C'est des sortes de petites nouvelles très new-yorkaises dans une atmosphère un peu presque à la Woody Allen. C'est extrêmement bien écrit, c'est très émouvant, ça vous plonge dans un univers new-yorkais comme ce qu'on aime, qui est presque de film, dans cette atmosphère un peu des années 80-90. Vraiment, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé ce livre et je vous le recommande. Ce livre s'appelle « Jusqu'à la corde » de Marc Ribot. C'est vraiment une plongée dans une atmosphère new-yorkaise que moi personnellement j'ai beaucoup aimé. « Jusqu'à la corde » de Marc Ribot aux éditions Linkaland. Sébastien Pinès, quelle transition !
Oui, alors si je peux me permettre, tu connais mon amour pour Radiohead. Marc Ribot a déclaré aussi son amour pour Radiohead, puisque dans une interview il y a quelques années, il exprimait en fait que c'était grâce à Radiohead qu'il avait repris goût à écouter de la musique, à avoir du plaisir à écouter de la musique grâce à Radiohead. Donc voilà, c'était juste une petite...
On le connaissait musicien, moi je l'ai découvert écrivain, et vraiment... Voilà, je vous dis, les 20 premières pages sont... Mais pour des musiciens, c'est peut-être bien, parce qu'ils parlent vraiment de la technique, de prise de son, etc., de trucs très, très techniques auxquels moi, je n'ai pas compris grand-chose. Mais une fois passé les 20 premières pages, c'est délectable. Donc, je vous le recommande. Il faut aller sur le site de Linkaland, parce que L-E-N-K-A, plus loin, Lant, L-E-N-T-E. Sinon, c'est difficile à trouver en librairie. Voilà, je vous le recommande. Sébastien, qu'on vient d'entendre, c'était Sébastien Pindès que vous veniez d'entendre et qui parlait de Radiohead, parce que dans les amours de Sébastien Pindestre, il y a le jazz, et puis il y a aussi Radiohead, à qui Sébastien, vous avez consacré plusieurs albums, et on attend, parce qu'il y en aura certainement d'autres, il y aura certainement une suite à l'Amnesiac Quartet.
Je ne sais pas, en tout cas, on peut faire un lien, une transition avec ton jingle, enfin ton générique, puisque c'est Clotilde qui fait partie de la Mesa Quartet depuis quelques années,
comme on disait,
qu'on peut écouter dans le Tribute to Radiohead volume 3.
Mais alors là, c'est pas du tout dans cet univers qu'on va vous entendre, puisqu'on va vous entendre dans... vous étiez déjà venu nous parler de Border Jazz... Non, peut-être pas. Non, vous n'aviez pas parlé du Border
c'était
Jazz.
C'était le Tribute to Radiohead.
Oui, c'est ça. Volume 1. Et là, c'est le volume 2 d'un album que vous faites en duo avec Nicolas Prost. Alors, Nicolas Prost, déjà, est-ce que vous pouvez nous parler de... Non, on va écouter déjà un premier morceau, puis après, vous nous parlerez un peu de votre rencontre avec Nicolas Prost et de cette fusion qu'il y a entre vous deux dans quelque chose qui est border jazz. C'est du jazz, mais c'est à la limite du jazz et du classique.
Enfin, c'est un peu borderline aussi, mais on en parlera après.
Borderline, je sais pas. Border jazz. Allez, on écoute. On va écouter le premier morceau. The Chase, un morceau qui a été écrit par Laurent Deville.
Thank you.
Et oui, vous êtes bien sur Jazzland à Ligre FM 93.1 en compagnie de Sébastien Pindestre pour la sortie de Border Jazz volume 2, parce qu'il y avait un volume 1, et là c'est le volume 2 parce que vous aviez accumulé pas mal de matériaux. Vous allez nous dire d'ailleurs, nous parler de ce répertoire, comment vous avez constitué ce répertoire, c'est en duo piano-saxophone, mais parlez-nous de cette rencontre avec Nicolas Prost, qui est un peu moins identifié, si je ne m'abuse, dans le secteur du jazz, un peu plus dans le secteur du classique, je crois.
Oui, alors la rencontre, c'est grâce à ma compagne, en fait, puisque son père est compositeur de musique électroacoustique, ancien membre du GRM. Et en fait, il s'est avéré que j'ai rencontré Nicolas Prost pour la première fois il y a assez longtemps, enfin il y a un peu plus de 15 ans, pour un projet où, en fait, il jouait une pièce qui est devenue une pièce assez de référence dans le monde du saxophone, de musique contemporaine, une pièce où il jouait 7 saxophones. Voilà. Et en fait, c'est Fragments gourmands, c'est une pièce de Jacques Lejeune, et il s'est trouvé qu'on a commencé un peu à se fréquenter avec Nicolas. Au départ, on parlait comme on peut faire avec Alexandre ou avec toi, on parle un peu des choses qu'on aime, les disques, et puis en fait, on s'est vite découvert qu'on avait pas mal d'atomes crochus. Et de fil en aiguille, Nicolas est venu quelques fois écouter mon trio, et puis il a dit, tiens, je pourrais jouer avec vous si c'est écrit comme ça, mais même si je pourrais peut-être faire quelque chose. Donc voilà, il a commencé à venir nous voir. À l'époque, c'était autour de midi au Jazz Club, et puis de fil en aiguille, il a commencé à proposer quelques concerts, moi aussi, et puis on est parti au Japon. On a commencé à créer avec quelques pièces qui étaient là, un peu
en duo, rock, ou
en duo, avec des pièces à moi, un peu réarrangées. Et puis, il y a eu le Covid. Donc là, on a commencé vraiment à jouer ensemble de temps en temps, mais c'était plutôt des rencontres autour du piano et du saxophone. Et le jazz était là, présent, mais pas que. Et après, c'est tourné au Japon. On s'est dit, il faut qu'on fasse vraiment un projet ensemble, il faut qu'on enregistre quelque chose. On avait déjà quelques pièces, notamment moi, parce qu'il m'a demandé plusieurs fois des commandes pour écrire pour le saxophone, et ce que j'ai fait, et donc j'étais assez flatté de pouvoir comme ça, par exemple, éditer une pièce chez Biodo, qui a été qui est jouée maintenant dans des concours d'entrée.
Ah oui,
donc
carrément.
Donc c'est quand même quelque chose. Il a apporté aussi des choses qui m'ont donné confiance en moi sur ma manière d'écrire et de faire des choses avec lui.
Là, vous vous êtes trouvé, parce que vous êtes pianiste de jazz et saxophoniste, vous en avez rencontré beaucoup, mais c'est avec lui que vous avez eu envie de faire un duo.
Bah, en fait,
Est-ce que c'est le fait justement qu'il ne vienne pas forcément du jazz, que ça soit justement Border Jazz qui vous a amené à cette voie
Je pense que c'est vraiment le désir de un peu le cloisonnement qui existe encore de moins en moins, hein, quand même, entre le monde du monde classique et le monde du jazz. Moi, déjà, quand j'avais 20 ans, j'avais toujours eu une espèce de d'idéal de me dire j'aimerais bien pouvoir ces deux univers se rencontrent. Alors, il y a eu plein de choses. Hein. Marcel Sola, il y a certainement un des premiers qui écrivait et qui pouvait être joué dans des concours classiques déjà dans les années 80. Mais j'avais vraiment toujours cette espèce de désir, d'idéal un peu, de pouvoir... Et là, quand Nicolas m'a dit, bah, écoute, on va créer un répertoire ensemble, où toi tu vas amener ta patte jazz et puis moi ma patte classique, et puis on va demander à des compositeurs, compositrices d'écrire. Donc là j'ai fait
Alors oui, c'est ça, parce que je vous dis,
bah oui.
vous dites,
bien sûr.
Je vais reprendre le disque, mais vous dites, vous prenez votre répertoire, mais votre répertoire, il est composé beaucoup de pièces écrites par des jazzmen, puisque par exemple dans le volume 2, pour certains ont écrit pour vous, c'est ça, vous allez revenir là-dessus.
Oui, pareil pour le volume 1 aussi.
Alors, je n'ai pas en tête pour le volume 1, mais sur celui que j'ai sous les yeux, on a quand même Erel Besson, Paquito Rivera, excusez du peu, Branford Marsalis, Nguyen Le, Laurent Deville, dont on vient d'entendre The Chase, Céline Bonassina, Anne Passeo, Bob Minzer, Avishai Cohen, le contrebassiste, One Shorter, une pièce de 17 minutes, John Patitucci, Pierrick Pedron, Philippe Portejoie et Stéphane Guillaume. Excusez du peu quand même.
Oui, là, ça s'est un peu emballé. En fait, c'est parti, si je peux revenir juste un peu.
Je crois que Miles Davis n'était pas disponible.
Non. Et puis, je ne raconterai pas ceux auxquels on a demandé. On
et Chris Potter aussi, je crois, dans le précédent.
Chris Potter,
aussi,
Ibrahim Malouf.
Ibrahim Malouf, exactement.
Oui, même John Newell, saxophoniste de Supertramp, a écrit aussi.
Mais ils ont écrit pour vous.
Oui, tout à fait.
Et comment vous faites? Vous
écrivez, alors, comment on a fait?
Vous téléphonez à John Patitucci en lui disant, t'as un petit moment de libre, est-ce que tu veux écrire pour nous?
Non, on va revenir en 2020. On est en 2020, c'est le Covid.
Oui. Okay.
Plus personne bosse. Et puis avec Nicolas, on se dit, on avait une tournée aux États-Unis annulée 15 jours avant. On se dit, bon, il faut qu'on fasse un truc. Moi et Nicolas, enfin surtout lui, mais on est un peu hyperactif. C'est-à-dire qu'on ne tient pas en place pour des choses, pour des projets. Faut faire quelque chose. Et puis avec nos réseaux, on se dit, peut-être qu'on peut, contacter des compositeurs, compositrices dans le monde. On avait un bon carnet d'adresses, moi avec la New York University, Nicolas, avec toutes les masterclass qu'il fait dans le monde entier. Et on a commencé à contacter des personnes, et on a dit, bah, ils font rien en ce moment. Mais ici, composer pour nous, ce serait pas mal. Et donc c'est parti comme ça, et puis tu en aiguilles, bah, Chris Potter a dit oui, plein de gens ont dit oui. Le volume 1 est sorti, et le volume 2, en fait, ça s'est un peu emballé, parce qu'on a vu qu'on jouait un peu partout.
Et puis on avait du matériau à faire.
On avait du matériel. Nicolas Prost, c'est quand même quelqu'un qui a fait beaucoup de choses pour le monde du saxophone, qui est maintenant reconnu dans le monde entier. Donc c'est vrai que c'est une carte de visite intéressante. Et puis tu en aiguilles en demandant, en montrant ce qu'on a déjà fait, en montrant les tournées. Ils ont vu un peu tout ce qu'on pouvait faire.
Quel premier qui a accepté? On va pas parler de ceux qui ont refusé.
Il n'y en a pas beaucoup qui ont refusé. Chris Potter a accepté très rapidement, en fait. Ouais. Brie Malouf aussi.
Et alors là ce qui est incroyable, on va entendre un deuxième morceau. Là, on a entendu Laurent Deville, et puis un morceau de Laurent Deville. Et maintenant, on va entendre Jones. Je crois que c'est un morceau de Branford Marsalis. C'est que vous les amenez sur un terrain qui n'est pas forcément celui terrain.
C'est ça la deuxième motivation, c'est de les challenger, en fait. Ça les challenge. Branford, il s'est dit, ah, j'ai jamais fait ça. Donc il a écrit quelque chose d'assez... un peu complètement un pas de côté par rapport à ce qu'il fait d'habitude. C'est à contre-courant et ça challenge, en fait, les... Et puis il y a aussi une envie, peut-être, parce que la plupart des compositeurs ont été édités ensuite par un grand éditeur français ou américain, enfin ça dépend. Et en fait, il y a aussi ce côté pour des compositeurs de jazz de pouvoir... C'est une autre manière, hein, puisque vous voyez, les CD, on ne met jamais comme ça les interprètes. On met plutôt... les compositeurs, on met les musiciens sur les pochettes de disques de jazz. Là, on met en avant les compositeurs, à part les thématiques. Herbie Hancock, bien sûr, quand il va jouer Gershwin, etc. Il va mettre, ou John Anderson, Jobim, il va mettre ça en thématique. Mais en jazz, en général, non, on met en avant les artistes, et puis les compositeurs, c'est un petit peu secondaire. Là, en classique, c'est les compositeurs, avant tout, qui sont mis en avant, quoi, en fait.
Attends, moi j'ai une toute petite question, c'est quoi la part d'improvisation dans ce qu'on écrit les...
Il y a beaucoup de plages où je peux improviser, c'est ça aussi le deal, c'est-à-dire que je puisse... À part sur le titre de One Shorter où là tout était écrit, les autres, il y a une part d'improvisation où justement, comme c'est des compositeurs, compositrices de jazz, Brian Z, qui est aussi sur le premier volume 1, il y a une part d'improvisation et l'idée c'est, par exemple, sur la pièce d'Anne Winley, c'est de en fait que l'auditeur ou l'auditrice ne savent pas au moment où j'improvise ou j'improvise pas. C'est ça aussi l'intérêt.
On écoute John de Branford Marsalis.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
vous êtes bien sur Jazzland de Ligre FM 93.1 en compagnie de Sébastien Pindestre pour la sortie de l'album Border Jazz, le volume 2, donc de Sébastien Pindestre en duo avec Nicolas Prost. On est dans une... Est-ce qu'on peut dire qu'on est dans une musique un peu chambriste?
Tu me chambres là un peu.
Tu me chambres
de chambrer. Pas chambrer, chambrer. Je l'attendais.
Qu'est-ce que ça veut dire la musique de chambre? Ça veut dire en fait, la définition, c'est que c'était des musiques qui pouvaient être jouées dans des chambres, dans des petites chambres, dans des petites rooms. Enfin, mm-hmm. C'est ça l'idée. Donc effectivement, on est en duo. Donc oui, il y a ce côté-là, mais il y a un côté aussi, il y a une liberté, puisqu'en duo, on peut faire beaucoup. De choses, même si justement on en parlait en antenne, enfin sur la part des choses, la part des choses écrites, non écrites, improvisées, et c'est là où tout est intéressant.
Qui tire l'autre vers l'improvisation?
Il y a une interaction, c'est ça qui est intéressant, ouais. C'est qu'en musique classique, quand tout est écrit, il y a quand même des choses qui se passent. Il y a un plaisir à jouer, à renouveler, de jouer des pièces écrites. Hein. Les interprètes en musique classique peuvent jouer 50 fois la même pièce, et à chaque fois, tout ça se passe par rapport à eux, ce qui leur traverse l'esprit quand ils vont jouer, etc. La concentration, là c'est ça, sauf qu'il y a un élément en plus, c'est l'élément d'improvisation sur certaines pièces qui sont complètement improvisées de ma part, à chaque fois. Oui. Et par contre, il y a la partie écrite sur trois pièces. Hein. Si je prends Paquito de Rivera, Bob Binzer, et la dernière pièce, c'est John Patitucci, moi, j'ai rien d'écrit. C'est moi qui improvise en fonction de l'interaction. Alors, c'est sûr qu'au bout de 50 fois, je connais la pièce par cœur. Ils ont écrit pour le sax. Mais c'était un peu le deal. Après, bien sûr, ils ont eu les pièces après avec ce que j'ai enregistré, ce qui a été figé à l'instant T, et puis voilà, ils ont validé, et donc moi je joue avec ça aussi, et Nicolas, donc du coup, va jouer quasiment la même chose, mais comme à chaque fois derrière, ce qu'il entend, ça peut être un peu différent, c'est aussi ce qui est plaisir un peu jubilatoire de pouvoir interagir avec une musique écrite, mais en même temps qui n'est pas figée, quoi, qui n'est jamais figée.
Demande beaucoup, beaucoup d'écoute, beaucoup de concentration.
Oui, puis vraiment une complicité. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans quelque chose où je pense qu'on ne peut pas arriver à faire ça si on n'a pas fait, comme avec Nicolas, beaucoup de répétitions, beaucoup de concerts ensemble. Ouais. Donc il faut vraiment une complicité, je pense, hors du commun. Enfin, quand je dis hors du commun, ce n'est pas que nous sommes du commun, mais la complicité me paraît hors du commun, en tout cas, moi, par rapport à toutes les rencontres que j'ai faites. Et donc, je pense que ça ne pourrait pas marcher si c'était ça. Et là, l'autre chose, c'est aussi la motivation aussi de Nicolas et de beaucoup de saxophonistes, c'est toujours cette espèce de complexe de ne pas avoir eu le répertoire comme on peut l'avoir eu pour la clarinette ou pour beaucoup de solistes, parce que voilà, y a pas Mozart n'a pas écrit pour saxophone, etc. Enfin, et donc, en fait, il y a toujours cette volonté dans les saxophonistes classiques de créer un répertoire. Toujours, toujours, toujours. Et donc, ça rentre dans cette perspective-là de pouvoir proposer des pièces qui vont ensuite être éditées, donc qui pourront être jouées par des pianistes, des saxophonistes dans le monde entier, qui peuvent être diffusées. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi dans le monde du saxophone.
Est-ce que dans ces commandes, par exemple, Patitucci, il écrit pour un type de saxophone précis, ou est-ce que vous avez cette liberté de l'interprète au soprano, au ténor?
La carte blanche pour Patitucci, il a voulu faire un hommage à Olivier Messiaen, donc qui s'était écrit sur le 7e mode d'Olivier Messiaen. Donc voilà, en gros, il n'y a pas de ré, puis bon, bref, ça dépend dans quelle gamme on le prend. Mais donc c'était un hommage à Olivier Messiaen. Après, tout est écrit vraiment avec toutes les ponctuations, les nuances. Et donc c'est là la performance de Nicolas Prost.
Le choix du saxophone, c'est du type de saxophone, c'est à votre appréciation ou c'est
non, ça dépend de la tessiture, j'imagine. Ouais. C'est comme la musique contemporaine, en fait. C'est hyper... hyper codé, enfin
tout à fait, tout est indiqué, et donc là par exemple il a écrit pour soprano, il aurait pu écrire pour alto, ça c'est vraiment le goût du compositeur, la compositrice.
C'était forcément du soprano,
alors oui, parce qu'au départ c'est la pièce a été jouée une fois, c'était au départ une pièce qui a été créée pour clarinette et orchestre, donc en fait il n'y avait pas tellement de choix, il a fallu adapter la clarinette, la tessiture par rapport au soprano, voilà. Donc c'est là la question ne se posait pas, puisque ça c'était pas possible de l'adapter pour alto, un saxophone alto par exemple. Par exemple par rapport à Céline Bonacina, qui est comme tout le monde le sait, voilà, son instrument de prédilection c'est le saxophone baryton, elle a écrit pour baryton, donc du coup Nicolas a dû bosser le baryton, parce que bien sûr il en joue, mais c'est pas ce qu'il joue tout le temps. Donc il a fallu voilà, qu'il bosse et qu'il puisse arriver à essayer d'exprimer tout ce qu'avait écrit.
Donc quand vous faites un concert, il vient avec ses 8 saxophones?
Non, non. Non, il vient avec 3 en général. En général, c'est alto, soprano et baryton. Ce qui est déjà pas mal parce que c'est une performance, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Moi, je peux citer d'ailleurs Stéphane Guillaume, hein, qui a écrit quelque chose, une pièce, qui était aussi... alors lui, il a écrit pour solo, puis après, il a dit non, je vais écrire... Sébastien, je vais t'écrire la partie de piano. Je le remercie d'ailleurs parce qu'il est comme... Je peux pas tout jouer, donc je suis obligé d'adapter parce que j'ai des petites mains. Il écrit des choses absolument... il faut avoir des mains de Rachmaninoff. Donc, mais c'est assez... voilà, donc... Et Jean-Charles Richard, par exemple, qui n'a pas écrit pour nous, mais qui, pour moi, un saxophoniste qui est capable de passer du baryton au sopranino sans problème.
Sébastien, vous allez revenir à l'émission parce qu'on voudrait parler aussi d'un autre projet qui vous tient à cœur. Malheureusement, on ne peut pas.
En même temps, là, tu reviendras par contre.
Mais pour un autre projet, et on invite toutes les auditrices et auditeurs à aller sur votre page Facebook pour découvrir un autre aspect de votre travail, qui est votre travail d'astronome.
D'astrophotographe.
D'astrophotographe, avec des photos absolument splendides qui donneront lieu à un projet et dont on parlera très prochainement à l'antenne. Sébastien, un grand merci. On rappelle le titre de l'album, Border Jazz, volume 2, sur la fabrication. Alexandre Saada pour l'album Yellow Horses. Donc, messieurs, on va guetter vos dates de concert. On remercie Armand à la technique. À suivre, Lusitania. La semaine prochaine, vous retrouvez Lionel Eskenazi qui recevra Macha Garibian et Roman. Et nous, on se retrouvera dans 15 jours avec 2 jeunes musiciens et musiciennes, Pierre Perchaud, guitariste, et Clélia Abraham, pianiste et aussi chanteuse. Décidément, maintenant, les pianistes se mettent à chanter. Et pour notre plus grand bonheur. On se quitte avec un morceau, c'est Dance With Me, c'est un morceau de Pierrick Pedron qui a écrit pour vous de l'album Border Jazz. Et on se dit, nous, à dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien.
Merci.
Et Sébastien, le volume 3, ça sera des compositions de Nicolas Prost et de Sébastien Pedestre quand même.
Je ne sais pas, je ne répondrai pas. Mais...
c'est une demande de notre part.
Alors d'accord.
Voilà.
Merci.
Un grand merci à vous, on se retrouve dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et faites bien attention à vous. Et on se quitte avec Dance With Me de Pierrick Pedron, joué par Sébastien Pindastre et Nicolas Prost.
Bisous,
ciao.
Bisous.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.